En fait, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières semaines, on s'aperçoit que Jérôme Leroy est apparu sur les écrans de télévision. On ne l'avait pas vu beaucoup avant. La sortie de ce livre, il a été invité, mais de façon très amicale. On l'a vu chez Tadei ou même sur la chaîne parlementaire. On l'a entendu à la radio aussi également. Et donc apparemment, tout se passe très bien. Le blog, ce n'est pas le premier roman de Jérôme Leroy. Alors, je ne vais pas retracer tout ce que vous avez écrit, mais en fait, vous êtes écrivain depuis très longtemps, puisque votre premier roman noir, en quelque sorte, c'est Monnaie Bleue, qui est sorti en 1997, qui a été réédité récemment à la Table Ronde. Et puis, vous êtes connu dans le milieu polar aussi pour deux séries de livres, de recueils de nouvelles, une si douce apocalypse et La grâce efficace, qui sont sortis en 1999 aux éditions Les Belles Lettres, qui sont d'admirables. C'est là qu'on a découvert pour certains, enfin en ce qui me concerne en tout cas, le talent d'écrivain de Jérôme Leroy, qui est, je crois, un des très très grands nouvellistes français. Et on verra d'ailleurs un petit peu plus loin dans la discussion, que ces nouvelles, il y a une espèce de fécondation de toute l'œuvre qui d'ailleurs apparaît aussi donc, dans le dernier roman, Le Bloc. Alors Le Bloc, je vais le présenter en quelques mots, puis après on posera les premières questions à Jérôme Leroy. C'est l'histoire donc, d'une France qui se retrouve en pleine émeute. C'est un petit peu de la science-fiction, un petit peu de la politique-fiction aussi, on verra. Une France en pleine émeute raciale, les banlieues sont à feu et à sang, mais c'est du sérieux, hein. Puis il y a plusieurs centaines de morts, 80 morts chez les policiers, une centaine de morts chez les policiers également. Et on est donc à un point tel que le pouvoir va faire appel à un parti d'opposition qui s'appelle le Bloc, qui jusque-là n'avait jamais participé à aucun gouvernement, qui est un parti d'extrême droite, et qui s'est taillé un costard un peu respectable au fil des années précédentes, au point que le pouvoir donc décide de négocier, pour essayer de mettre un terme aux émeutes, une participation du Bloc au gouvernement. Le roman se situe cette nuit de négociation. Et pendant cette nuit, on voit deux personnages, ce sont les deux personnages du roman. L'un, Antoine, qui est l'intellectuel du parti, mais qui est surtout le mari d'Agnès Dorgel. Agnès Dorgel étant la fille du président du Bloc. Et cet intellectuel, donc, qui va lui aussi attendre le retour de sa femme après les négociations, pour savoir comment ça s'est passé, va profiter de cette nuit pour faire un petit peu un retour en arrière sur son histoire, sur son passé, et donc revisiter quelques-unes des années de jeunesse et de son itinéraire. Parallèlement à ce personnage, on suit un autre personnage qui s'appelle Stanko, et qui, lui, est un homme des basses œuvres du parti. Mais lui, sa situation est plutôt tragique, puisqu'il est condamné à mort. En effet, le prix de l'accession au gouvernement du Bloc, c'est la condamnation à mort de Stanko, parce qu'il a trop de cadavres dans son placard, c'est un personnage très dérangeant. Alors, bien sûr, c'est un polar, mais c'est surtout un livre qui nous livre une réflexion assez inquiétante sur le futur, puisque Jérôme Leroy fait le constat que cette accession au pouvoir du Bloc est totalement réaliste et inscrite, en quelque sorte, dans ce qu'on vit aujourd'hui. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi, à votre avis, quel est le diagnostic que vous portez sur la société française pour pouvoir dire qu'on en est presque arrivé là?
Oui, enfin, on en est presque arrivé là, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai voulu faire dans ce roman, parce que parfois on parle un peu de politique fiction, voire d'anticipation. Non, ça se passe maintenant et aujourd'hui. un écrivain que j'aime bien qui s'appelle Ballard, qui disait qu'il n'écrivait pas de la science-fiction, mais qu'il écrivait une espèce de présent visionnaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait se passer. Voilà, j'ai pas dit que c'était imminent, j'ai pas dit que c'était quelque chose qui allait arriver, j'ai dit que c'était quelque chose qui, c'était une hypothèse de travail. Alors elle est plus que vraisemblable, à mon avis, et elle l'est pour des raisons simples, c'est que si je me permets, au nom de quoi je me permets de faire un constat aussi pessimiste, d'ailleurs à travers la bouche du personnage dès les premières pages, il y a un mot clé, c'est que il s'aperçoit que c'est une société qui s'est totalement fragmentée en 30 ans et où les rapports ne sont plus que des rapports de peur. C'est-à-dire toutes les vieilles solidarités ont explosé et tout le monde a peur de tout le monde. Alors sur des bases sociales, on peut penser à la peur de la police qui va dans les cités, mais on oublie à quel point la peur des gens dans les cités ou les quartiers, j'aime pas le terme quartier parce qu'on est tous dans des quartiers, voilà. C'est aussi une peur qui est fondée sur des bases ethniques et on a l'impression effectivement qu'en 30 ans, c'est à peu près le laps de temps dans lequel les personnages se plongent et repensent à leur passé. En gros, ça fait une petite trentaine d'années, c'est-à-dire de la fin des années 70, début des années 80, à nos années 2010. Eh bien, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a eu un point de bascule? Et pour essayer de comprendre ça, pour des tas de raisons qu'on pourra détailler un petit peu, mais le fait de m'intéresser à l'histoire de l'extrême droite française m'a semblé un angle de tir intéressant. C'est-à-dire que en 1980, à peu près à l'âge où un de mes deux personnages est au lycée, l'adhésion à des idées d'extrême droite, c'est le fait de quelques petits dandys mal placés, qui sont en général des enfants de parents à droite, très à droite, ou d'extrême droite, mais en tout cas héritiers de traditions comme l'Algérie française, comme les combats anticommunistes, etc. Mais en gros, ça reste de l'ordre du marginal. D'ailleurs, je rappelle entre parenthèses que, par exemple, le candidat d'extrême droite n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles de 81, parce qu'il n'avait même pas eu le compte de signature. Donc ça n'existait pas du tout. Et puis, boum, deux ans après, il y a les premiers scores. Et puis, ça n'a cessé de monter. Ça n'a cessé de monter complètement, au point qu'on est arrivé aujourd'hui à une formidable opération de blanchiment idéologique que le roman raconte aussi de manière romanesque à travers le sacrifice d'un des chefs du service d'ordre du parti. C'est symboliquement, dans le roman noir, ça représente la respectabilisation de ce parti. Voilà, comment est arrivé là? Et ça, c'est quelque chose que seul le roman peut faire, à mon avis, parce que on peut essayer de voir les choses d'un point de vue historique, sociologique, politique. Moi, je me suis quand même pas mal documenté. En même temps, il y a quelque chose qui manque à l'explication. Et voilà.
Oui, alors, c'est là que je voulais en venir. On est bien dans un roman. Et donc, c'est intéressant peut-être de s'arrêter sur les personnages. Donc, le premier, Antoine, donc on l'a rapidement décrit tout à l'heure, c'est le mari d'Agnès Dorgel, qui est donc le président du parti, le Bloc. Mais cet Antoine, c'est un intellectuel, lui. Hein, il a un grand-père communiste, il est écrivain. Il est accusé, on l'accuse au sein du Bloc d'avoir gauchi même les idées du parti, donc il n'est pas forcément non plus très accepté à l'intérieur du Bloc. Il n'est pas du tout aimé des catho-intégristes, par exemple. Il est fan des auteurs de droite, Morand, Brasillac, tous ces auteurs. À un moment donné, vous le qualifiez de solipsiste. C'est lui-même qui se qualifie de solipsiste, puisque c'est lui qui parle. C'est-à-dire de cette pensée individuelle qui arrive à mettre, qui met à l'extérieur le monde et qui considère que la seule réalité, c'est ce qu'elle pense.
Je pense que c'est d'ailleurs Très brève interruption, excusez-moi. Je pense que c'est d'ailleurs le solipsisme est une caractéristique de la pensée d'extrême droite ou de la pensée fasciste. C'est le sentiment d'être à soi-même la totalité du réel et que le reste du monde n'est qu'une projection de ses fantasmes. Et ça arrive même chez les intellectuels de ce camp-là.
Oui. Vous citez Schopenhauer, c'est le fou enfermé dans un bunker, quoi. C'est exactement ça. Mais par contre, quand même, ce qui m'intéresse, c'est que c'est lui, ce personnage, qui est au centre quand même du roman, et qui il est loin d'être antipathique. Il a des côtés même, on est totalement prisonnier parfois. De son mode de pensée, dans la mesure où il est amoureux, il a des passions, il s'arrête sur lui-même, mais pas de façon pas sans pathos. Et je me suis posé la question si vous avez dit, je crois dans une interview, que Madame Bovary, c'était pas vous, mais entre Jérôme et Antoine, est-ce que l'un des deux n'est pas le négatif de l'autre ?
À défaut d'être le négatif, ça aurait pu être... j'avais des anticorps pour un tas de raisons familiales, historiques, politiques. J'avais des anticorps très, très forts. Mais c'est le père, c'est plutôt une famille démocrate chrétienne. C'est le grand-père. Le grand-père est communiste par hasard. Démocrate chrétien, mais du fait de la résistance. Ce personnage-là, ce qu'il a, c'est que en même temps, c'est celui qui est le plus sympathique, mais à mon avis, c'est le vrai salaud des deux, au sens sartrien du terme. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il fait, et il pourrait à chaque instant. C'est la définition même du salaud sartrien. Il pourrait à chaque instant reprendre son existence en main et faire d'autres choix. Il ne les fait pas. Il ne les fait pas parce qu'il est amoureux. C'est des choses qui arrivent. Alors ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire dans le polar, j'allais dire, un peu plus moralisateur sur l'antifascisme. On ne peut pas le faire parce que ces gens-là ne sont pas amoureux, ou s'ils sont amoureux, c'est avec des perversions sexuelles abjectes. Là, non, ce n'est pas le cas. C'est une passion amoureuse, à la fois banale et unique, comme toutes les passions amoureuses. Son background culturel, si je puis dire, ce mot affreux, effectivement, il va le chercher du côté des auteurs de droite. Pas tous, d'ailleurs, parce qu'il aime aussi Vaillant et Aragon. Mais c'est un littéraire. Alors moi, le modèle, en fait, c'est pas moi. C'est un écrivain qu'au demeurant, si je ne partage pas beaucoup de ses idées, je m'y suis beaucoup intéressé d'un point de vue littéraire, au point d'écrire dessus, enfin, d'un point de vue universitaire. Moi, le vrai modèle de... Je crois pas l'avoir encore dit, mais le vrai modèle d'Antoine, ça serait une forme de Drieu-La Rochelle transposé aujourd'hui, c'est-à-dire un type qui en fait, la première phrase du roman, c'est pas à dévoiler, c'est de dire que elle résume parfaitement ce qu'a par exemple été l'itinéraire d'un Drieu, c'est-à-dire que tu es devenu fasciste à cause d'un sexe de fille, parce que justement c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hormonal ou du je sais pas, et qui fait que de toute façon, en plus, au début, il ne prend jamais vraiment les choses au sérieux. C'est pour ça que c'est un salaud, c'est-à-dire que il prend pas les choses au sérieux, et puis au point même de rester dans une espèce de d'inertie ou d'aboulie pendant cette nuit. Cette nuit où il sait, où à la fois il se souvient, mais où il sait que ailleurs dans Paris, Stanko, son ami, son petit frère, enfin les relations peuvent d'ailleurs être qualifiées, peuvent être ambiguës, son ami, son petit frère, son Pygmalion, enfin tout ce qu'on voudra, est sur le point d'y passer.
Il y a aussi un thème alors qui revient, qui est repris par Antoine, qui est repris de d'autres livres que vous avez écrits, comme La Minute prescrite avant l'assaut.
Pour l'assaut.
Oui, pour l'assaut. C'est le thème du monde d'avant et du monde d'après, qui est vraiment très prégnant. Alors, en gros, il s'est passé quelque chose jusqu'à la fin des années Giscard, Et ce monde-là bascule, le monde de ce monde qu'on a connu là, bascule avec le mitterrandisme, en gros.
Presque littéraire ou presque poétique, qui est la recherche de la date. Il y avait une phrase de Baudelaire que j'aime beaucoup qui est « C'est parce que je voulais dater ma tristesse ». Et effectivement, alors que je me situe plutôt dans un camp qui serait celui du progrès, pour faire vite, même si je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis là, il se trouve que là, ça peut paraître abominablement réactionnaire de regretter finalement les années 70, ou un peu une forme de nostalgie un peu bébête, un peu infantile.
Alors donner une idée justement de la nature de ce moment de rupture, j'aimerais lire un passage, un court passage du roman. Et c'est Antoine qui évoque justement ce monde d'avant et ce monde d'après. Par exemple, depuis combien de temps trouve-t-on normal de voir les gens manger en marchant ? Ça n'a l'air de rien, c'est anodin, impossible. Mais enfin, une jolie fille qui se débat avec un kebab et son téléphone portable, insoucieuse de la sauce blanche qui lui coule sur le menton, c'est typiquement une attitude du monde d'après. Inimaginable dans une rue des années 60 ou même 70. Catherine Isabelle Duport, alors pour ceux qui auraient oublié, c'est l'héroïne de Masculin.
C'est un des personnages féminins de Masculin féminin de Godard de 66.
Catherine Isabelle Duport n'aurait jamais mangé un sandwich debout dans la rue devant les autres. D'abord parce qu'elle aurait été gênée, appartenant à une époque où les autres, justement, avaient encore une importance, et aussi parce que rien, ni patron, ni horaire, n'aurait justifié une telle aliénation et qu'il y avait toujours moyen de s'installer à une terrasse, de croiser par hasard une copine, de parler des garçons autrement qu'en se connectant à Facebook dans la solitude du soir, dans un appartement cher et petit, à rôter le kebab mal digéré du midi. Monde d'avant, monde d'après, non, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire d'ailleurs. Mai 68 est un événement du monde d'avant, une révolution somme toute assez traditionnelle, mais elle annonce le monde d'après, c'est certain, puisque vont sortir de ses rangs les baby-boomers d'aujourd'hui, avec leur dictature qui est encore au pouvoir et qui est objectivement responsable du chaos qui règne depuis des décennies et dont les émeutes des derniers mois ne sont qu'une forme particulièrement aiguë. Le bloc, pour toi, ce fut aussi un moyen de leur dire à quel point tu les vomissais, ces libertaires qui n'ont libéré qu'une chose, leur pulsion à eux, pratiquant avec le même bonheur la partouze et l'appétit de pouvoir dans tous les domaines. Alors ce roman a été écrit quand même, je pense, il y a... Un an peut-être, non ?
Oui, enfin, un peu plus.
Et il y a quand même des...
Deux ans. C'est-à-dire que ça, c'est quand vous parliez des craintes que j'avais au début sur la réception que pouvait avoir... c'est très facile de mal le comprendre, puisqu'on peut dire finalement, c'est un discours d'extrême droite. C'est quand même quelqu'un qui tient ce discours, c'est un type d'extrême droite. Ceci étant dit, je suis pratiquement tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, sauf que le bloc n'a jamais été une solution et que c'est au contraire la pire des conneries. Mais pour le reste, le diagnostic est là.
On disait qu'on parlait de politique fiction, mais quand on relit la dernière phrase que je viens de lire, on s'aperçoit qu'on est totalement dans le réel, quoi, hein, dans l'horreur du réel.
Et ce monde d'avant, justement, et ce monde d'après, c'est où je cherche illusoirement la date, mais j'ai aussi écrit de la poésie et publié de la poésie. Et là aussi, je fais des poèmes où j'essaye de voir si c'est pas, je sais pas, la mort de Pasolini, par exemple, 75, ou des choses comme ça qui fait qu'on passe dans un... Bon, alors en philosophie, on a pu parler du monde postmoderne, Debord a pu parler de la société du spectacle, etc. Mais qui fait que, à travers des petites attitudes de la vie quotidienne, je crois que j'en reparlais récemment, mais je ne sais pas si je lisais le roman, parce que parfois j'ai l'impression de devenir gâteux et de me répéter, mais j'attendais quelqu'un à la sortie du cinéma, je regardais les couples qui sortaient, et avant même de se parler, le premier réflexe de tout le monde, qui sont des espèces de gestes mécaniques, a été d'allumer des téléphones portables. Alors, je ne fais pas une obsession sur le téléphone portable, mais quand on commence à être soumis à ce point-là, à la technologie, on peut être soumis à peu près à n'importe quelle idée. C'est-à-dire qu'avant, le premier réflexe, enfin, avant, dans le monde d'avant. Alors, c'est pas forcément le monde d'avant le portable d'ailleurs, hein, mais non, le, vrai, premier, le premier réflexe qu'on avait était quand même de discuter du film, de se faire un petit bisou, et pas de repartir de chacun de son côté de manière autiste et tout. Mmh. Et encore une fois, autiste ou solipsiste d'ailleurs, ça explique pourquoi, à mon avis, le bloc aujourd'hui se sent pousser des ailes. Mmh. Voilà. Le monde d'avant, c'était aussi le fait de. D'avoir, par exemple, c'est idiot, mais mon personnage zappe toute la nuit sur les chaînes info continues avant de tomber sur le film. Bon, je sais pas si c'est pire maintenant, mais je sais pas si c'était mieux avant, mais je sais que c'est pire maintenant. Par exemple, la télévision, simplement, avait encore des émissions qui étaient relativement fédératives. Comment voulez-vous qu'une... Enfin, que quand il y a une télé pour les pauvres, pour les riches, pour ceux qui aiment le jeu, pour ceux qui, etc. Bon, il y a plus d'espace. Par exemple, la télévision même est le symbole qu'il n'y a plus d'espace commun. Avant, il y avait tellement peu de chaînes que finalement tout le monde regardait, en gros tout le monde, et qu'on avait l'impression de vivre dans la même société. C'était ça aussi le monde d'avant. C'est-à-dire que on avait l'impression de vivre dans un espace commun encore. Voilà, avec des vraies luttes. Ça n'empêchait pas des luttes, je n'ai pas dit que c'était idéal, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des choses à prendre, mais ce n'était pas cette espèce de monde désincarné, virtualisé et un peu zombifié quand même. Mmh. Où chacun, finalement la télé, quand vous avez 200 chaînes, ça ne peut être que le reflet de 200 communautarismes dans la société, en fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, là où on croit qu'on a un choix, on ne fait que s'enfermer dans une niche qu'on nous assigne. Ça, l'extrême droite adore ça. Elle travaille par petite part de marketing, comme ça, dans son électorat potentiel.
Bon, pour découper le roman, encore une fois aussi, peut-être le segmenter de façon un peu arbitraire, le personnage de Stanko, lui, me semble-t-il, c'est vraiment un personnage de polar, bien que, enfin, davantage que celui d'Antoine, qui est plus un personnage romanesque aussi, mais moins typé, effectivement, roman noir, quoi. Alors, Stanko, c'est l'homme des bases œuvres, je l'ai dit tout à l'heure, du parti. C'est celui qui exécute, au sens propre, les légionneurs, et qui va être à son tour exécuté pour pouvoir... permettre l'accession au pouvoir du bloc. C'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, avait une gueule de skin. C'est quelqu'un qui a fait l'armée. Il a été formé dans les commandos. Et puis, c'est un Polonais d'origine. Lui aussi, c'est un fils donc d'immigré qui voit la casse dans le Nord, notamment par... on peut dire que sa première mort symbolique, c'est quand il voit son père se suicider après le licenciement et après la fermeture d'Usinor. Il y a d'autres éléments, mais que je ne voudrais pas révéler, parce que ce sont des éléments typiques de la progression de l'intrigue et qui font que sa jeunesse a une importance. Je pense qu'il y a une scène presque freudienne qui peut expliquer aussi en partie le personnage, mais pas simplement, effectivement. Et puis... en gros, on peut dire aussi que pour Stanko, c'est la gauche qui est responsable de l'accession du bloc, quoi. Parce que lui, il vient directement de ces zones qui ont vu le partir en vrille toute l'industrie et l'abandon par la gauche de ces zones-là.
Par exemple, on peut dire que Stanko, il a quelques années de moins qu'Antoine, il serait né au milieu des années 60, et il est adolescent quand... Enfin, moi, il se trouve que j'ai été pendant 20 ans prof dans le Nord, et dans ces zones difficiles, à Roubaix, mais aussi avant... Enfin, la première année dans le Valenciennois, et il se trouve que pour des raisons personnelles, je suis resté dans le Nord parce que je m'y suis marié avec quelqu'un qui est issu de ce milieu-là, pas du bloc, mais de Denain, c'est-à-dire dont le père est quelqu'un qui a perdu son travail à l'âge de 47 ans, qui s'est retrouvé en pré-retraite, parce qu'il y a eu des milliers de licenciements dans la case de la sidérurgie en 78. Enfin, je pense que tout le monde s'en souvient, Usinor Denain, enfin, c'était l'autre grosse casse dans l'Est, avec la sidérurgie du côté de Longwy. Vous n'imaginez pas, j'y vais encore, par exemple, je vais y être dans quelques jours pour les fêtes, vous n'imaginez pas à quel point cette façon dont ça, c'est l'équivalent d'un bombardement, mais presque, ça se lit presque dans la topologie de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des blancs. C'est une ville, par exemple, Denain était une ville qui était faite pour, à la grande époque, 50 000, 60 000 habitants. Il doit y rester 10 000 personnes. Vous avez un théâtre énorme qui tombe en ruine, etc. Des choses de ce genre. Et on se retrouve là, tout étonné. En plus, avec des tas de raisons historiques qui font qu'il y a eu un déclin du Parti communiste, parce que justement, cette classe ouvrière s'est trouvée totalement explosée, et on s'étonne qu'il y ait un appel d'air tel que, toute une série d'enfants de cette génération, de cette classe ouvrière humiliée, détruite, se soit connu l'errance typique qui, en général, effectivement, qui passe par le mouvement skin, qui passe par les supporters de football, qu'on retrouve dans les travées des stades, et qui sont très souvent, qui retrouvent une espèce de famille de substitution. Auprès de l'extrême droite qui justement en fait des exécuteurs des basses œuvres. Et s'ils sont un petit peu moins stupides ou moins bas du front, eh bien on les fait grimper assez vite. Et Stanko, c'est notre créature à tous, c'est notre responsabilité collective à tous, nous avons abandonné toute une classe ouvrière qui représentait aussi une culture ouvrière, ce que Orwell appelait la common decency, qui était que c'était des gens qui vivaient, qui avaient des rapports de fraternité, des rapports sociaux très forts, des cultures très fortes, des traditions très fortes qui étaient liées au monde, au travail. Ça a disparu. Et si ça disparaît, il y a la nature, la politique comme la nature, à la hauteur, horreur du vide, il y a un appel d'air. Il ne faut pas s'étonner, effectivement, que l'extrême droite ait fait et fasse encore, et là, il se trouvait un deuxième souffle dans ma propre région, pour jouer, justement, sur cette fierté ouvrière abandonnée et laissée et abandonnée par tous, et notamment par ceux qui se sentent le plus trahis. C'est-à-dire Stanko se sent profondément trahi, effectivement, par la gauche, par la gauche dans laquelle avait cru son père, et donc dès qu'il n'y a plus de repères, va avec tout ça, effectivement, le racisme, le culte de la violence, de la défonce. Et puis voilà, j'ai pas envie de révéler l'ensemble du roman, mais c'est pour ça qu'il va vite se trouver. Lui, c'est vraiment peut-être lui, à la fois qui a du sang sur les mains, mais qui est le plus, comme disait Simenon, il s'agit de comprendre, pas de juger. Oui. Voilà, j'ai pas envie de le juger, lui. Autant Antoine me semble être quelqu'un de derrière ses allures beaucoup plus séduisantes, beaucoup plus dandy, quelqu'un de finalement infiniment plus salaud, je l'ai dit au sens arcien du terme. Autant Stanko peut inspirer une forme de compassion horrifiée, mais de compassion.
Alors, c'est un des reproches qu'on aurait pu vous faire, mais que je n'ai pas entendu, finalement. C'est la forme, le côté brutal du jeu que vous utilisez pour Stanko, qui nous immerge totalement dans son univers. Pour éclaircir un petit peu, d'ailleurs, c'est ce sentiment qu'il a vis-à-vis de ceux qui l'ont abandonné, par exemple. On parle de la gauche. Je vais vous lire un très court passage où il retrouve sa sœur qui, elle, a, si on peut dire, est passée du bon côté puisqu'elle est médiatrice culturelle quelque part dans une ville du Nord. Et c'est tout ce que Stanko, évidemment, a en horreur parce que c'est le symbole même de ceux qui se donnent la parole pour émettre des bonnes opinions, pour être dans la compassion, mais qui n'ont jamais rien fait concrètement pour sortir la région du chômage. Alors il parle de sa sœur, il dit « Elle devait traîner avec les cultureux dans toutes ces associations financées avec le pognon du contribuable. » C'est tous les clichés qu'on entend, mais ça prend une force très particulière dans la bouche de Stanko. « Ceux que la gauche envoie à Loudrincourt-les-Mines pour essayer de faire reculer le fascisme en la personne d'Agnès et qui ne comprennent toujours pas pourquoi le spectacle vivant sur le marché n'empêche pas le bloc de faire 45% à chaque élection. » pourquoi le théâtre de rue ne rend pas sa conscience de classe aux 28% de chômeurs, aux 30% de RMIs ? Pourquoi les citations de Brecht, peintes par les plasticiens d'intervention citoyenne sur les murs des corons, n'empêchent pas la bête immonde de grossir quand eux sont repartis le soir dans leur loft du Vieux-Lille ? Alors c'est effectivement ce sentiment étrange qu'ont ces exclus de voir toutes les bonnes intentions, mais qui sont des bonnes intentions de visiteurs courtois et jamais une implication réelle avec la volonté politique de mettre de changer la vie de ces gens-là, quoi.
En même temps, il se sent vaguement content. C'est un sentiment paradoxal, mais je crois que c'est un peu plus loin ou un peu avant, où il s'aperçoit qu'elle est, elle est sur la liste des régionales, des élections régionales dans le Nord, et où il est content de s'apercevoir qu'elle n'est pas chez les écolos, mais qu'elle est restée chez les communistes,
oui,
en disant au moins Natacha est restée fidèle à l'héroïque connerie de papa. Voilà.
Bon, ben, je vous remercie. Merci Jérôme Leroy d'avoir répondu à toutes nos questions.